Zacharie chapitre 3, versets 2 à 4. Et l'Éternel dit à Satan, « Que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. Celui-ci n'est-il pas un tison retiré du feu ? Or Joshua était vêtu de vêtements sales et se tenait devant l'ange. Et l'ange prit la parole et dit à ceux qui se tenaient devant lui, « Ôtez-lui ses vêtements sales. » Puis il dit à Joshua, « Vois, j'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits magnifiques. »
Bonjour à tous frères et sœurs, bonjour et que Dieu vous bénisse en vous souhaitant un bon sabbat. C'est ma prière que dans cette heure, nous puissions goûter à la présence du Saint-Esprit et recevoir l'illumination de Dieu ici-bas à travers la méditation de sa parole et des témoignages. Puisse le Seigneur nous aider vraiment, c'est mon désir et notre prière. Nous sommes dans la troisième partie de notre brève série sur la réforme vestimentaire. Je pense que j'intitule cette troisième et dernière partie « Un indice du cœur ». Un indice ou un reflet du cœur. Pour introduire, donc nous avons parcouru de nombreuses pensées, de nombreuses méditations sur le sujet du vêtement, je n'y reviens pas. Mais pour introduire la méditation d'aujourd'hui, où par la grâce de Dieu, nous voulons vraiment, tant que possible, conclure ce sujet d'une manière satisfaisante et d'une manière spirituelle, en espérant que nous n'ayons pas cessé d'être spirituels dans l'exploration de ce sujet. Eh bien, pour l'introduire davantage de manière spirituelle, disons cela comme ça, on se tourne vers les paroles de Zacharie chapitre 3, qui constituait aussi notre lecture biblique. Dans Zacharie chapitre 3, versets 1 à 5, nous avons cet épisode où Dieu présente à travers, par l'entremise de Joshua, le grand sacrificateur, la condition du peuple de Dieu dans ces derniers jours notamment, où il est accusé par le diable de toutes choses, notamment des choses qu'il a réellement commises, et pour cela et pour cette raison-là, et c'est dans ce contexte-là qu'il se sent condamné. Donc c'est une autre question qu'on ne va pas forcément explorer. Cela a trait beaucoup à la tragédie des siècles et à ce dernier épisode du temps de détresse de Jacob, dans lequel le peuple de Dieu sera plongé et qu'il lui faudra surmonter jusqu'à la septième plaie. Et donc dans ce contexte, j'aimerais qu'on lise Zacharie chapitre 3, versets 1 à 5, et nous allons réfléchir aux pensées qui sont contenues dans cela. Puis l'Éternel me fit voir Joshua, le grand sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan se tenait à sa droite pour s'opposer à lui. Et l'Éternel dit à Satan, « Que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. Celui-ci n'est-il pas un tison retiré du feu ? Or Joshua était vêtu de vêtements sales et se tenait devant l'ange. » Et l'ange prit la parole et dit à ceux qui se tenaient devant lui, « Ôtez-lui ses vêtements sales. » Puis il dit à Joshua, « Vois, j'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits magnifiques. Et je dis qu'on lui mette sur la tête une tiare pure, et ils lui mirent sur la tête une tiare pure et le revêtirent des vêtements en présence de l'ange de l'Éternel. » pour cela, pour éclairer ce passage de la parole de Dieu, j'aimerais lire cette déclaration qui se trouve dans Our Father Cares, à la page 92 et au paragraphe 6, qui cite Zacharie chapitre 3, versets 4 à 7, et qui nous montre l'application pratique et réelle de la justification dans notre propre vie en rapport avec cet épisode ici de Joshua qui est accusé par Satan, mais qui est justifié par Dieu et qui se voit fourni de nouveaux vêtements et qui se voit ôter son iniquité. Hein. Je lis verset 4. « Vois, dit le Seigneur, j'enlève ton iniquité, disait-il à Joshua, et je te revais d'habits magnifiques. » Qu'est-ce que cela veut dire? Je le lis ici. Dieu attend de pouvoir dispenser la bénédiction de la rémission des péchés, du pardon de l'iniquité, du don de la justice à tous ceux qui croiront en son amour et qui accepteront son salut. Christ est toujours prêt à dire aux pécheurs repentants, de point, et elle cite, « Voici, je t'ai enlevé ton iniquité. » Zacharie chapitre 3, versets 4 à 7, c'est tout ce qui est cité dans la citation complète. Christ est le lien entre Dieu et l'homme. Le sang de Jésus-Christ est l'éloquent plaidoyer en faveur des pécheurs. Et donc, elle applique cette situation ici au désir qu'a Dieu de pardonner le pécheur. Donc, autrement dit, et d'ailleurs, c'est ce qui est écrit au verset 4, Dieu est en train de mettre sur un pied d'égalité, nous dirons, le symbole du vêtement et la réalité de la justice de Dieu dont il revêt le pécheur. Hein? Joshua était vêtu de vêtements sales, lisons-nous au verset 3, et se tenait devant l'ange. Et Dieu a comparé, a mis sur un pied d'égalité le vêtement sale avec l'iniquité. Vous comprenez? Le vêtement sale est comparé à l'iniquité. Et Dieu dit, voilà, tu es revêtu de vêtements sales, maintenant je vais enlever ton iniquité, je vais te revêtir d'habits magnifiques. Donc c'est à double sens où les deux sens sont utilisés, celui du vêtement, celui de la justice, celui du péché, celui des vêtements sales. Vous comprenez? Et l'équivalent réel et concret de cette représentation relativement imagée de Zacharie chapitre 3, c'est que, quoi? Dieu attend, désire, on pourrait dire, comme c'était marqué en anglais, désire pouvoir, attend avec un désir de pouvoir dispenser la bénédiction de quoi? Quels sont ces habits magnifiques dont il revêt Joshua, ici, dans cette illustration? Il attend de pouvoir dispenser la bénédiction de la rémission des péchés, du pardon de l'iniquité, du don de la justice à tous ceux qui croiront en son amour et accepteront son salut. Donc Joshua nous est ici donné, comme c'est marqué à d'autres endroits, comme un type représentant, comme un symbole qui représente le peuple de Dieu qui est accusé par l'ennemi, mais qui, comme c'est marqué ici, remplit cette condition de croire en l'amour de Dieu et d'accepter son salut. Et pour cette raison, nous lisons à ce sujet-là que Christ est toujours prêt, ou comme on pourrait le traduire, Christ est à tout moment prêt à dire aux pécheurs repentants, « Voici, je t'ai enlevé ton iniquité. » Et donc, ces nouveaux habits magnifiques, j'arrive, Ces nouveaux habits magnifiques, ils sont équivalents du sang de Jésus-Christ qui est l'éloquent plaidoyer en faveur des pécheurs, à savoir Dieu, comme c'est marqué ici. Je lis, Joshua se tenait debout devant l'ange de l'Éternel et Satan se tenait à sa droite pour s'opposer à lui et l'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime. Donc le sang est placé comme l'éloquent plaidoyer en faveur des pécheurs et il dit, voici, celui-ci n'est-il pas un tison retiré du feu, à savoir, Jésus n'a-t-il pas donné sa vie pour ce pécheur? Et c'est cela le plaidoyer grâce auquel le pécheur peut recevoir le pardon, c'est le sang de Jésus-Christ. Et lorsqu'il reçoit le pardon, comme c'est marqué dans cette illustration, il nous est présenté, Joshua, comme représentant de tout le peuple de Dieu repentant, nous est présenté comme recevant de nouveaux habits magnifiques à la place de ses vêtements sales. Vous voyez? Ce que vous voyez ici. Et donc, cela commence à nous donner une compréhension de l'intitulé de cette troisième partie, cette méditation, qui est un indice du cœur et aussi revêtu de la justice de Christ. Voilà, c'est un double titre parce que ça indique bien le sens et la direction dans laquelle nous avançons ici dans cette méditation d'aujourd'hui. Et pour élargir encore cette pensée, avec non pas mes propres paroles mais celles de l'esprit de prophétie, je vous lis dans Sons and Daughters of God, à la page 240 et au paragraphe 4. Toujours dans le contexte de Christ qui revêt le pécheur repentant et croyant de ses habits magnifiques, de sa justice. Hein? On ne va pas par quatre chemins, c'est ça que cela veut dire. Dieu, nous le lisions avant, Dieu attend de pouvoir dispenser la bénédiction de la rémission des péchés, du pardon de l'iniquité, du don de la justice, qui n'est autre que la justice de Christ, c'est ce que nous lisons maintenant. SD, page 240, paragraphe 4. Grâce à la justice imputée de Christ, le pécheur peut se sentir pardonné et savoir que la loi ne le condamne plus, car il est en harmonie avec tous ses préceptes. Comment ? Grâce à la justice imputée de Christ. Ce n'est pas la justice transmise, communiquée, impartie, c'est la justice imputée par laquelle le pécheur peut se sentir pardonné et exempt de toute condamnation, parce que il croit en Dieu et exerce et fait preuve de repentance, de confession et de repentance envers Dieu, et croit se réclame des mérites de Christ en sa faveur, non pas de ses propres mérites, mais des mérites de Christ par lequel et par lesquels il est maintenant considéré comme juste devant Dieu. Comment ? Grâce à la justice imputée, c'est-à-dire que elle est mise à son nom, sans pour autant qu'il ait fait quoi que ce soit dans ce sens-là. Nous venons à Dieu tel que nous sommes, hein, comme le fameux cantique le dit, tel que je suis, je viens à toi, et nous obtenons ce que Dieu désire pouvoir dispenser, à savoir la rémission de nos péchés, le pardon de notre iniquité, et le don de la justice de Christ, qui est tout d'abord imputé, c'est ce que la parole de Dieu appelle, et l'esprit de prophétie, c'est ce qu'ils appellent la justification par la foi. Simplement par la foi. Toutefois, ce n'est pas tout, mais c'est la base de notre réconciliation avec Dieu. Et tout cela est lié à l'image du vêtement. Je continue. Je relis la phrase pour qu'on ne perde pas la pensée. Grâce à la justice imputée de Christ, le pécheur peut se sentir pardonné et savoir que la loi ne le condamne plus car il est en harmonie avec tous ses préceptes. C'est son privilège de se considérer comme innocent lorsqu'il lit et pense au châtiment qui s'abattra sur les incrédules et pécheurs. Par la foi, il se saisit de la justice de Christ, se reconnaissant pécheur, transgresseur de la sainte loi de Dieu, il se tourne vers l'obéissance parfaite de Christ, vers sa mort sur le calvaire pour les péchés du monde, et il a l'assurance qu'il est justifié par la foi au mérite et au sacrifice de Christ. Il se rend compte que le Fils de Dieu a obéi à la loi en son nom et que la peine de la transgression ne peut pas tomber sur le pécheur croyant. L'obéissance active de Christ revêt le pécheur croyant de la justice qui répond aux exigences de la loi. C'est intéressant parce que donc nous avons la justification ici qui confère au pécheur repentant la justice imputée de Christ par laquelle il peut se sentir justifié devant Dieu et réconcilié avec Dieu et désormais plus en proie à la condamnation de la loi de Dieu. Simplement, l'obéissance active maintenant de Christ, maintenant qu'il est, il est justifié, cette justice imputée de Christ au pécheur par la foi, se transitionne naturellement, sans aucune interruption, vers une obéissance active. Je le lis, l'obéissance active de Christ revêt le pécheur, on est encore en train de parler de cette figure du vêtement, l'obéissance active de Christ revêt le pécheur croyant de la justice qui répond aux exigences de la loi. Donc par la foi, nous venons à Dieu pécheur et sommes justifiés par la justice imputée de Christ, c'est-à-dire imputée lorsque nous n'avons rien à offrir à Dieu. Et de même, nous restons en communication constante avec Dieu par l'obéissance active de Christ, qui n'est autre que la justice de Christ, cette fois-ci transmise à travers notre soumission et notre abandon à Dieu pour faire non pas notre volonté, mais sa volonté. Et ceci-là, cette obéissance active de Christ, telle qu'elle nous est présentée par ces mots-là, est également présenté dans tout ce contexte et illustré par une activité de se revêtir de quelque chose. Et elle revêt qui ? Elle revêt le pécheur croyant, pas le pécheur impénitent, pas le pécheur indifférent, pas le pécheur négligent, le pécheur croyant, celui qui par la foi décide de, comme il a reçu le Seigneur Jésus-Christ, de marcher avec lui et en lui. Et ceci nous est présenté dans l'illustration comme une activité de se revêtir et d'être revêtu. Vous voyez ? D'où maintenant le sens élargi des paroles de l'ange, qui n'est autre que Jésus, qui disait à Joshua, « Vois, j'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits magnifiques. » Ce qui ne veut pas simplement dire qu'il est maintenant justifié par la foi, mais qu'il se voit octroyer et communiquer cette obéissance active de Christ par laquelle nous sommes encouragés et exhortés à marcher par la foi dans l'obéissance à tous les commandements et aux ordonnances de Dieu. Donc ça, c'était pour notre, j'allais dire, brève introduction. Mais ça nous permet, vous voyez, frères et sœurs, de discerner que la question du vêtement, parce que Dieu fonctionne beaucoup par des illustrations, mais quand bien même les illustrations sont des illustrations, souvent dans la parole de Dieu, ces choses-là même qui sont des illustrations sont également des réalités. Vous voyez ? Donc, la manière dont Dieu fonctionne, c'est que souvent, son symbolisme n'est pas juste une voie transitoire prête à être abolie afin de ériger la chose qu'elle symbolise, mais elle est à la fois une réalité que Dieu demande aux pécheurs de la même manière que la chose qu'elle est censée symboliser. Ce que je veux dire par là, c'est que vous voyez à travers cette suite logique de l'inspiration que l'on vient de parcourir, que notre vêtement n'est pas une simple affaire superficielle. Ce n'est pas une question de forme, comme le serait peut-être un code vestimentaire d'école privée. Vous savez, il y a ces écoles, elles sont peut-être pas si nombreuses que cela, en France ou dans d'autres contrées, où il y a un dress code, comme on appelle ça en anglais, un code vestimentaire que les enfants sont tenus de suivre et selon lequel, en harmonie avec lequel, les enfants sont tenus de s'habiller. Ils doivent suivre un code vestimentaire. Mais ici, la question du vêtement, dans la Bible et dans l'esprit de prophétie, ce n'est pas cela du tout. C'est autre chose. Et à travers la lecture de la parole de Dieu et des témoignages, nous voulons aujourd'hui pouvoir distinguer clairement et personnellement et en avoir des convictions personnelles, nous voulons pouvoir distinguer les ramifications hautement spirituelles du vêtement dans notre vie chrétienne. Donc c'est l'objectif de notre méditation et je prie que Dieu m'aide et nous aide dans ce sens. Et donc la parole de Dieu, si vous regardez sans une étude très approfondie, sans avoir à chercher très longtemps, vous trouvez de nombreux passages que je vais brièvement ici énumérer, dans lesquels le vêtement est utilisé comme un symbole du caractère de la personne qui le porte. Je répète. Dans ces passages ici clés que je vais énumérer et nous lister, nous voyons dans la parole de Dieu que le vêtement est utilisé comme un symbole du caractère de la personne qui le porte. Vous comprenez? Donc le vêtement dans la parole de Dieu, nous trouvons à de nombreuses reprises qu'il va symboliser le caractère de la personne qui porte ce vêtement. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire que le vêtement que la personne porte est réel, simplement il représente également quelque chose. Pour cela, c'est ce que l'on voit notamment dans Zacharie chapitre 3 verset 1 à 5 que nous venons de lire. Nous le voyons également dans Apocalypse chapitre 3 verset 17 à 18 où Dieu dit « Tu ne sais pas que tu es pauvre, aveugle, misérable et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or afin que tu sois riche, un collier pour tes yeux afin que tu vois, et des vêtements blancs afin que la honte de ta nudité ne paraisse point. » Nous lisons également dans Apocalypse chapitre 16, verset 15, où Dieu dit « Voici, je viens comme un voleur. » Heureux celui qui garde ses vêtements afin que sa honte ne paraisse point. Je crois que c'est ça à peu près les paroles. Nous lisons également dans Matthieu chapitre 22 verset 11 à 12 au sujet du vêtement de noces dont ceux qui viennent à ce fameux banquet de ce maître de la maison sont tenus de se revêtir. Le vêtement de noces, il faut qu'ils aient ce vêtement et il y a une personne qui rentre dans le banquet et qui n'a pas ses vêtements et le maître de maison lui dit qu'il lui demande comment est-ce qu'il a pu rentrer sans ses vêtements. Ce qui est une représentation de vouloir entrer dans l'église sans être revêtu de la justice de Christ. Nous lisons également dans Romains chapitre 13 verset 14, Éphésiens chapitre 4 verset 21 à 24, Galates chapitre 3, verset 27, Colossiens chapitre 3, verset 9 à 12 et 14, et Job verset 29, chapitre 29, pardon, verset 14. Donc, dans votre temps, je vais peut-être les marquer ici, je vous invite à parcourir ces versets afin de pouvoir avoir une vision large de ce que la Bible et comment la Bible utilise le symbole du vêtement pour représenter le caractère. Je vous laisse cela dans votre temps libre. Mais maintenant, pour nous permettre d'avancer dans notre méditation aujourd'hui, j'aimerais lire la déclaration suivante qui se trouve dans Évangéliser, à la page 244, paragraphe 2. Nous revenons ici sur une citation que nous avions lue la dernière fois. J'aimerais y revenir pour ressortir de nouveau la pensée qui est contenue sur le symbolisme du vêtement. Nous l'avions vu et nous voulons le revoir. Évangéliser, page 244. Je lis. On ne devrait pas être négligent dans la façon de s'habiller. Pour l'amour de Christ dont nous sommes les témoins, nous devrions chercher à nous présenter sous le meilleur jour. En relation avec le service du tabernacle, Dieu avait pris soin de mentionner chacun des détails se rapportant aux vêtements de ceux qui devaient officier en sa présence, nous montrant qu'il, Dieu, a une préférence en ce qui concerne la manière de se vêtir de ceux qui le servent. Les instructions qui furent données au sujet des robes d'Aaron étaient très précises, car ces robes avaient un caractère symbolique. De même, les vêtements des disciples de Christ devraient avoir un caractère symbolique. Nous sommes appelés à être en toutes choses ses représentants. Donc, vous voyez, à la lumière de ce que nous venons de lire ici, je ne sais pas si vous avez relevé, je souligne notamment ce qui nous intéresse, où il était écrit que les vêtements des disciples de Christ devraient eux aussi avoir un caractère symbolique, ou de même. Je répète, les vêtements des disciples de Christ devraient eux aussi avoir un caractère symbolique. D'accord? Nous avions vu cela la dernière fois, mais nous y revenons maintenant. Donc nos vêtements, si nous nous réclamons du nom de Jésus-Christ, devraient avoir un caractère symbolique. Et qu'est-ce que cela veut dire, donc, que nos vêtements doivent avoir un caractère symbolique? Vous voyez, la réforme vestimentaire n'est donc pas une règle pour la forme. Pourquoi est-ce que je dis cela? C'est parce que si nos vêtements doivent avoir un caractère symbolique, eh bien, la réforme vestimentaire est alors une activité concrète dont le caractère symbolique nous sert de rappel constant afin d'éduquer nos cœurs sur la nécessité de nous revêtir sans cesse de toute la justice de Christ. Vous comprenez? Qu'est-ce que nous avions lu? Les vêtements des disciples de Christ devraient eux aussi avoir un caractère symbolique. J'aimerais ici lire la citation suivante qui nous permet d'approfondir cette pensée. Pour un bon équilibre mental et spirituel au volume 1 et à la page 297, paragraphe 3, il est écrit ceci, je vous le lis tel que c'est écrit dans la version anglaise, littéralement, je lis, le vêtement est un indice de l'esprit et du cœur, ce que l'on porte à l'extérieur est le signe de ce qui est à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est? Quel est le vêtement? Que représente le vêtement? Nous lisions que nos vêtements, en tant que disciples de Christ, devraient avoir un caractère symbolique. Mais ici, nous lisons que, pas simplement qu'ils devraient, mais que le vêtement est un indice de l'esprit et du cœur. Vous comprenez? Ce que l'on porte à l'extérieur, sur nous, sur soi, est le signe de ce qui est à l'intérieur, en nous, en soi. Vous voyez, donc, ce n'est pas une règle juste pour la forme, ce n'est pas une chose superficielle, une chose optionnelle. Parce que le vêtement est un indice de l'esprit et du cœur. C'est-à-dire que le vêtement va indiquer notre vêtement, la façon dont nous revêtons, dont nous nous habillons, que nous le voulions ou pas, va indiquer de manière intransigeante ce qu'il y a dans notre esprit, notre cœur. Notre vêtement va indiquer nos affections, va indiquer nos penchants, va indiquer notre direction. Si nous avons une direction vers le ciel, alors nos pensées sont vers le ciel et notre vêtement, si nous comprenons la leçon que nous sommes en train d'explorer ici, notre vêtement alors révélera notre condition du cœur. Si, de l'autre côté, nous avons un cœur charnel, nous ne sommes pas convertis, nous complaisons dans le péché, eh bien, il se peut que notre vêtement également reflète cela. Ce n'est pas obligé, parce qu'il est possible que nous nous revêtions des ornements du sanctuaire, mais que nous soyons trouvés sans la justice de Christ. C'est aussi possible. L'esprit de prophétie dit d'ailleurs cela. Toutefois, nous restons ici sur le principe que le vêtement est un indice de l'esprit et du cœur. Il se peut que nous portions un faux indice qui puisse donner l'impression à l'œil extérieur que nous sommes justes, comme l'étaient par exemple les pharisiens, mais cela n'est en aucun cas une excuse pour nous revêtir d'une manière qui serait un indice d'un esprit non consacré et non sanctifié, comme Joshua était revêtu de vêtements sales. Et donc, le vêtement est généralement parlant un indicateur fidèle de la condition du cœur, à savoir de l'esprit, de la personne. Et en anglais, c'est un index. Et c'est intéressant parce que un index, c'est ce qu'on appelle en français le sommaire, la table des matières. Et donc, le vêtement est un peu comme une table des matières, un sommaire de qui nous sommes. De la même manière que dans un livre, si vous regardez le sommaire, hein, ici par exemple, est-ce que je vais en trouver un ici? Non, ici j'en ai pas, voyons voir. Bon, là j'en ai pas, mais si je regarde dans un autre livre, par exemple, on va donner l'illustration. Là, il y a la préface, vous voyez, là, il y a la préface avant, et ensuite, ici, vous avez le sommaire, la table des matières. Vous avez tous les chapitres, vous comprenez? Ça, c'est le sommaire. On appelle ça, en anglais, un index. C'est l'index du livre, il comprend le contenu du livre. Eh bien, l'esprit de prophétie nous dit que le vêtement est un indice ou un index ou un sommaire de l'esprit, de notre esprit et de notre cœur. Et donc, le vêtement va, généralement parlant, nous dire ce qu'il y a dans le livre que nous sommes. Il va indiquer les chapitres de la condition de notre cœur. Vous comprenez? Ça, c'est simplement en lisant ce que nous venons de lire qui est écrit ici. Et donc, j'aimerais poser la question, frères et sœurs, à la lumière de ce que nous venons de méditer maintenant. Quels sont donc les indices, parce que là, nous venons de parler largement, je ne suis pas allé dans les détails, nous avons juste appris que le vêtement est un indice de l'esprit et du cœur. Mais quels sont donc les indices révélés dans notre apparence? Et quelle est leur signification? Eh bien, pour répondre à cette question, ce que nous voulons faire, c'est nous tourner vers le commencement et la création de l'homme. Nous allons faire ça proprement, pour avoir une réponse correcte et que nous, dont nous puissions nous saisir et nous réclamer lorsque nous chercherons à comprendre personnellement ce sujet. Pour cela, je vous invite à vous tourner vers les paroles de Genèse chapitre 1, verset 26. Genèse chapitre 1, verset 26, où nous lisons au sujet de la création de l'homme. Comment furent créés Adam et Ève? Vous vous rappellerez, mais nous voulons avoir notre mémoire rafraîchie. Dans Genèse chapitre 1, verset 26, je lis. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, etc. Verset 27. Et Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il les créa mâle et femelle. Comment est-ce que l'homme fut créé? Comment est-ce qu'Adam et Ève furent créés? À l'image de Dieu, n'est-ce pas? Dieu créa l'homme à son image. Et donc, nous comprenons à la lumière des nombreuses choses qui nous sont données dans la parole de Dieu au sujet de Dieu et de son image, que Dieu, tout d'abord, est un être intelligent. Jésus disait à la femme samaritaine, Dieu est un esprit et ceux qui l'adorent doivent adorer en esprit et en vérité. Quand Jésus disait et dit que Dieu est un esprit, il veut dire que Dieu est une personne intelligente qui réfléchit de la même manière que nous réfléchissons parce que, justement, nous avons été créés à l'image de Dieu. De la même manière que nous sommes des esprits intelligents, Dieu est tout précisément cela. Et nous comprenons également que dans l'homme, Dieu a donné un spécimen de lui-même, ou autrement dit, un exemple de lui-même, une manifestation de lui-même, comme c'est marqué dans Child Guidance, page 103 et paragraphe 2. Et si donc, frères et sœurs, l'homme et nous, par le biais de nos parents et de toute la descendance, si donc l'homme a été créé à l'image de Dieu, à la fois l'image morale et l'image physique, est-ce que c'est un terme à double sens, triple sens même peut-être? Si donc, et c'est le cas, l'homme a été créé à l'image de Dieu, quelle est l'apparence de ce Dieu à l'image duquel l'homme a été créé? Quelle est son apparence? Parce que si nous connaissons l'apparence du Dieu qui a créé l'homme à son image, alors nous savons quelle est l'apparence avec laquelle il a créé l'homme. Quoique ce ne fût peut-être pas aujourd'hui encore son apparence. Vous comprenez? Nous lisons pour répondre à cette question sur l'apparence de Dieu, le passage du psaume 104. Le psaume 104, versets 1 à 2. Comprendre cela, frères et sœurs, c'est fondamental pour que nous ne cherchions pas à satisfaire aux exigences de Dieu comme à une règle de forme, comme si nous allions dans une école privée où il y a un code vestimentaire. Ce n'est pas du tout cela l'idée. Pas du tout. Au contraire, c'est une question hautement spirituelle avec des ramifications presque purement et exclusivement spirituelles qui se manifeste extérieurement par quelque chose de concret. Le simple fait que cela se manifeste et se matérialise de manière et par quelque chose de concret tel que le vêtement n'annule pas et ne retire en rien la nature hautement spirituelle de la chose. Voyez? Et donc, je repose la question pour qu'on ne perde pas le fil. Quelle est l'apparence de ce Dieu à l'image duquel l'homme a été créé? Dans le psaume 104, versets 1 à 2, nous revenons ici en pensée et en méditation à cette apparence que Dieu a toujours désiré et destiné à l'homme et pour l'homme. Comment est Dieu? À quoi ressemble Dieu? Pour que nous lui ressemblions véritablement en toutes choses comme il est. Je lis. Mon âme bénit l'Éternel. Éternel, mon Dieu, tu es merveilleusement grand. Tu es revêtu de splendeur et de majesté. Il s'enveloppe de lumière comme d'un vêtement. Il étend les cieux comme une tenture, etc. Et donc, quelle est l'apparence de Dieu à la lumière de ce que nous venons de lire ici? Plus encore, quel est son vêtement? Parce que le mot est utilisé ici. Donc le psalmiste loue Dieu et décrit Dieu ici, sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu, bien sûr. Et que dit-il? Dans cette parole inspirée et infaillible, il dit « Tu es revêtu de splendeur et de majesté ». Ça nous donne un ordre d'idée. Mais quel est l'élément précis ici qui nous permet de bien cerner le sens de ces paroles de louange? Il s'enveloppe, ou je lis comme c'est marqué dans la Bible King James, « Tu es revêtu de splendeur et de majesté, enveloppé de lumière comme d'un vêtement. » Je l'ai pris aussi dans la Bible Vigouroux. Donc, il s'adresse à Dieu et il dit tout ce qui est au sujet et qui concerne Dieu et qui le décrit. Et il dit « Tu es revêtu de splendeur et de majesté et tu es enveloppé de lumière comme d'un vêtement. » Donc comment est-ce que Dieu se revêt? Comment est-ce que Dieu s'habille? Selon ce qui est écrit ici, frères et sœurs, je ne fais que lire. Dieu s'habille en s'enveloppant de lumière. Il est écrit que Dieu est revêtu de splendeur et de majesté. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que sa splendeur et sa majesté, c'est un vêtement de lumière. Il est enveloppé de lumière comme s'il était enveloppé d'un vêtement. Son vêtement, c'est une lumière. Plus encore, probablement, éblouissante. Comprenez? Quelle est l'apparence de Dieu? Quel est son vêtement? Il s'enveloppe de lumière comme d'un vêtement. Vous imaginez, enfin? C'est pas de la lumière noire, hein? C'est de la lumière... Vous voyez quand quelqu'un est dans la lumière? Si quelqu'un a un spot ici, comment vous le voyez? Vous voyez une forme vaguement, non? Vous arrivez à discerner la forme et tout, sa hanche et tout, vous voyez tout ça? Comment Dieu s'habille? Nous venons de le lire. Mais, est-ce que cette description-là est poursuivie autre part dans la parole? Est-ce que Dieu a poursuivi de manière bégayante cette description à un autre endroit de la parole de Dieu par lequel nous puissions réfléchir davantage? Tournez-vous avec moi vers les paroles d'Ésaïe chapitre 6, versets 1 à 3. Ésaïe chapitre 6, versets 1 à 3. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur, disait Ésaïe. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône haut et élevé. Donc en vision, il eut cette vision de Dieu. Dans le ciel notamment ici, parce que c'est sur un trône. « Je vis, disait-il, le Seigneur assis sur un trône haut et élevé, et les pans de son vêtement remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, et chacun d'eux avait six ailes. De deux ils couvraient leur face, de deux ils couvraient leurs pieds, et de deux ils volaient. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint ». Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les fondements des seuils furent ébranlés par la voix de celui qui criait et la maison fut remplie de fumée. Et après, qu'est-ce que Ésaïe dit? Est-ce que Ésaïe commença à dire « Ouah, je loue le Seigneur !» Ésaïe dit « Alors je dis « Malheur à moi !» Je suis perdu !» etc. Apparemment, il ne faisait pas ce qu'on fait dans notre grand optimisme. Quand Ésaïe vit en vision la gloire, la splendeur et la majesté de Dieu, il commence à dire malheur. Oh là là, j'ai dit tellement de bêtises dans ma vie. Que disait-il? Car je suis un homme dont les lèvres sont impures et je demeure au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. C'est une méditation en soi que je laisse ouverte ici à nos moments personnels. Mais pour le cadre de notre méditation, j'aimerais revenir au verset 1. Que lisons-nous au sujet de ce Dieu à l'image duquel nous avions été originellement créés et formés? Quelle est son apparence? Ésaïe vit le Seigneur assis sur un trône haut et élevé, comme il est, comme il était à cette période-là, dans le lieu saint du sanctuaire céleste, comme il l'est désormais dans le lieu très saint de ce même sanctuaire. Et que vit-il? Il le vit assis sur un trône et les pans de son vêtement remplissaient le temple. Ah ouais. Parce que, ça, rappelez-vous, il s'enveloppe de lumière comme d'un vêtement. Donc, il n'est pas contraint par la problématique du fait qu'il puisse trébucher sur son vêtement. Vous comprenez? Donc, Dieu peut faire son vêtement aussi long qu'il veut. Vous voyez? Et comment le veut-il long s'il peut le faire aussi long qu'il veut? Il le veut tellement long que les pans de son vêtement remplissent le temple. Vous voyez ici? Que disait le psalmiste? Mon Dieu, tu es merveilleusement grand, tu es revêtu de splendeur et de majesté. Et donc, quand il est décrit les pans de son vêtement, c'est littéralement les pans de sa robe. Hein? Comme dans les temps anciens, en Orient, au Moyen-Orient, et dans d'autres pays aussi, maintenant de l'Asie, ils s'habillent, même les hommes, d'une robe qui n'est pas la même que celle des femmes, mais c'est comme ça qu'ils s'habillent. Et c'est ça qui est décrit ici. C'est la robe d'un homme, mais qui est si longue, si grande, qu'elle remplit tout le temple. Et il va sans dire que sa robe hein, est longue, très longue, une robe magnifique de lumière, par laquelle il est impossible de discerner la forme de son corps, sans parler de ses chevilles, de ses mollets ou de ses genoux. Et quand nous réfléchissons, frères et sœurs, à ce Dieu au sujet duquel les séraphins, en sa présence, et vis-à-vis duquel les séraphins qui sont en sa présence se couvrent, possédant 6 ailes, se couvrent leur corps de 4, en gardant seulement 2 pour voler, et qui s'écrit, et concernant lequel il s'écrit « Saint, Saint, Saint ». Et l'Éternel des armées, est-ce que vous pensez que Dieu pourrait et voudrait se tenir sur ce temple haut et élevé, habillé de shorts et de t-shirts? Serait-ce plausible? Même si ce fut un premier jour de la semaine, un second, un mercredi, un jeudi, un vendredi, un dimanche, voudrait-il, pourrait-il, désirerait-il, serait-ce dans son caractère de se revêtir ainsi? Et si, comme j'essaie de vous le faire comprendre, si ce n'est pas son caractère? À combien plus forte raison cela ne devrait pas être notre caractère et notre disposition si nous cherchons à ressembler de nouveau à Dieu et à Christ? Comment donc nos premiers parents furent-ils créés? Nous avons lu à l'image de Dieu. Et comment est-ce que Dieu est? Nous venons de lire qu'il s'enveloppe de lumière comme d'un vêtement. C'est son image physique. Il a également une image spirituelle, une image morale, l'image de son caractère qui est la bonté, la fidélité, la miséricorde, la douceur, etc. Tous ces traits de caractère qui constituent sa miséricorde et sa justice. Il est juste également. Mais son image physique, sur laquelle nous nous attardons ici aujourd'hui, c'est qu'il s'enveloppe de lumière comme d'un vêtement, qu'il est revêtu de splendeur et de majesté, et que les pans de sa robe remplissent le temple où il siège. Elle est si longue. Et comment est-ce que nos premiers parents furent-ils créés? À l'image de Dieu, mais allons maintenant dans Genèse chapitre 2, verset 25, et contemplons un passage qui est souvent mal compris. Contemplons-le ici ensemble. Genèse chapitre 2, verset 25, il est écrit. Or, Adam et sa femme étaient tous deux nus, et il n'en avait point honte. Je relis. Adam et sa femme étaient tous deux nus. Ils étaient tous les deux tout nus. Mais il n'en avait point honte. Et qu'est-ce que cela veut dire? Certains nous diraient que cela veut dire qu'ils étaient nus, ils le voyaient, seulement cela ne leur provoquait et ne leur causait pas de honte. Nous disons, nous voulons bien. Mais à l'image de ce que nous venons de lire, ça ne peut pas. Je vais lire une déclaration de l'Esprit de prophétie qui nous permet de voir pourquoi cela ne peut pas. Mais d'abord, j'ai tenté, ici, tant bien que mal, par l'aide du Saint-Esprit, de nous montrer de manière intelligente pourquoi cela ne peut pas, pourquoi cette idée n'est pas simplement incongrue, mais impossible, parce que nous venons de lire que Dieu se revêt de lumière comme d'un vêtement, qu'il se revêt tellement de lumière que les pans de sa robe remplissent tout le temple, et le temple est grand, temple du sanctuaire céleste, et que Adam et Ève ont été créés, comme nous l'avions lu dans Genèse chapitre 1, verset 26 à 27, ont été créés à l'image de Dieu. Et si l'image de Dieu, c'est qu'ils se revêtent de lumière comme d'un vêtement, alors ils ont aussi dû être créés de la même manière, avec la même apparence. Donc, la seule conclusion logique, c'est que, pourquoi est-ce qu'ils n'avaient point honte? Parce que leur nudité, comme Dieu, était cachée par un vêtement de lumière. C'est ce que je lis ici, dans Patriarches et Prophètes, à la page 23 et au paragraphe 1. En sortant des mains de son Créateur, Adam était d'une taille élancée et parfaitement harmonieuse. Son visage vermeil resplendissait de santé, de vie et de joie. Dans son innocence, le premier couple ne portait aucun vêtement artificiel. Dans son innocence, ce que nous venons de lire, ils étaient tous deux nus. Mais ils ne portaient aucun vêtement artificiel. Ils étaient vêtus, ainsi que les anges, d'un voile de lumière et de gloire qu'ils conservèrent aussi longtemps qu'ils restèrent obéissants à Dieu. Donc nous venons de le lire dans l'esprit de prophétie. Ils n'avaient aucun vêtement artificiel, toutefois ils n'étaient pas nus. La raison pour laquelle ils n'avaient point honte, c'est parce qu'ils étaient vêtus d'un voile de lumière et de gloire. Tout comme les anges en ont. Les anges également sont revêtus comme ça, parce qu'ils ont été également, dans une moindre mesure peut-être, créé à l'image de Dieu. Vous comprenez? Dieu a dans son cœur, non pas de créer des êtres inférieurs à lui, mais des êtres qui puissent le comprendre. Vous comprenez? Être familiarisé avec sa nature et son apparence, qui puisse s'identifier en Dieu. Vous voyez? Et donc, il leur donna le même privilège qui était le leur, celui d'être revêtu de lumière. Donc, c'est un privilège, notez bien. C'est un privilège. C'est pas un fardeau. Sauf si nous n'aimons pas cet indice du cœur qui représente un cœur que nous n'avons pas. C'est ça la difficulté. Nous ne voulons pas la croix parce que notre cœur est ailleurs. Je poursuis. Et qu'est-ce qui s'est produit après la chute qui nous permet ici de faire un lien entre l'expérience de nos premiers parents et la nôtre par laquelle nous arrivons à faire du sens et progresser vers la réponse à notre question initiale? Nous allons y aller. Genèse chapitre 3, versets 7 à 10. Donc nous avons lu, hein, comme c'est marqué dans cette déclaration, dans son innocence, d'Adam et Ève, le premier couple ne portait aucun vêtement artificiel, ils étaient vêtus d'un voile de lumière et de gloire. Ça, c'était dans leur innocence. Ils n'avaient point honte. Ils étaient nus, mais ils n'avaient point honte, parce qu'ils étaient revêtus de lumière. Maintenant, Genèse chapitre 3, verset 7, je lis. Après qu'ils eurent péché, après qu'Ève eut mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et qu'elle en eut pris de son fruit et qu'elle en donna aussi à son mari auprès d'elle et qu'il en mangea. Après cela, verset 7, je lis, et les yeux de tous deux s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ils cousirent des feuilles de figuier et se firent des ceintures. Et ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui se promenait dans le jardin au vent du jour. Et Adam et sa femme se cachèrent de devant la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Et l'Éternel Dieu appela Adam et lui dit, « Où es-tu ? » Et il, Adam, répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai craint parce que je suis nu et je me suis caché. » Donc, est-ce que vous voyez ici le transfert d'affection et d'émotion qui a eu lieu après la chute de nos premiers parents? Et notez bien ici que leurs yeux s'ouvrirent et ils connurent quelle était leur nudité qu'ils n'avaient jusqu'ici pas connue parce qu'ils étaient revêtus de lumière. En ce sens-là, leurs yeux s'ouvrirent et ils cherchèrent, étant maintenant nus, parce qu'ayant perdu ce voile de lumière et de gloire, ils cherchèrent à combler ce manque de revêtement. Donc, de toute évidence, leur nudité, ce que j'avais écrit, leur nudité et la nudité en général engendra la honte. C'est la raison précise pour laquelle ils se cousirent des feuilles de figuier et se firent des ceintures pour chercher à se rapprocher le plus possible avec leurs faibles moyens et leurs conditions pécheresses de leur état précédent dans lequel on ne voyait pas leur nudité. Et nous voyons d'ailleurs que, j'aimerais lire la citation suivante qui nous permet de poursuivre dans Patriarches et prophètes à la page 34 et au paragraphe 1 et le début du paragraphe 2, je lis. Après son péché, Adam eut tout d'abord l'impression qu'il entrait dans une sphère plus élevée. Bientôt, cependant, la pensée de sa faute le remplit de terreur. L'atmosphère qui avait toujours été douce et uniforme paraissait glaciale au couple coupable. L'amour et la paix qu'ils avaient connus n'étaient plus, et ils éprouvaient désormais à la place un sentiment de péché, une crainte de l'avenir et une nudité de l'âme. La robe de lumière qui les avait jusque-là enveloppés avait disparu, et pour la remplacer, ils s'efforcèrent de se confectionner un vêtement, car ils ne pouvaient pas, dévêtus, affronter le regard de Dieu et des saints anges. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Est-ce que vous avez saisi ici les pensées qui sont contenues dans cette déclaration? C'est beaucoup plus que juste la nudité. Qu'est-ce que c'est? Après qu'ils eurent péché et qu'ils se soient retrouvés nus, quel était leur sentiment parallèle à cette condition physique nouvelle? L'amour et la paix qu'ils avaient connus n'étaient plus, avaient disparu littéralement, et ils éprouvaient désormais à la place quoi? Qu'est-ce qu'ils éprouvaient à la place de cet amour et de cette paix en conséquence du péché? Ils éprouvaient désormais à la place un sentiment de péché, une crainte de l'avenir et une nudité de l'âme. Donc vous voyez, frères et sœurs, la honte de leur nudité physique qui fut provoquée par leur transgression de l'injonction de Dieu, par leur péché, disons le cours, était inextricablement liée à un sentiment d'une nudité de l'âme. Donc, ce que nous lisions juste avant, ça donne davantage de poids à ce que nous lisions juste avant, à savoir que le vêtement est un indice de l'esprit du cœur et que l'absence de vêtement est également un indice de la condition de l'esprit et du cœur. Et en l'occurrence, l'absence de vêtements chez Adam et Ève, juste après qu'ils eurent péché, qu'ils se soient retrouvés pour la première fois de leur vie nus aux yeux des autres et à leurs propres yeux, cette absence de vêtements provoqua en eux le sentiment d'une nudité de l'âme. Donc leur nudité physique représentait fidèlement le sentiment de nullité de l'âme qu'ils ressentaient intérieurement. Vous comprenez? Donc réellement, réellement, frères et sœurs, comme nous l'avions lu, le vêtement est bel et bien un indice, un reflet parfait, généralement parlant, de l'esprit du cœur, de la condition de notre esprit et de notre cœur. Nous voyons cela illustré d'une manière puissante et indéniable dans l'expérience d'Adam et Ève. Cette nudité physique dont ils firent l'expérience était liée, intimement et étroitement liée à un sentiment de péché et à une et de nudité de l'âme. Mais notez bien ici, est-ce que vous comprenez ce qui est contenu dans ces paroles? Maintenant qu'ils eurent perdu cette robe de lumière qui les avait jusque-là enveloppés, maintenant qu'elle eut disparu, pour la remplacer, ils s'efforcèrent de se confectionner un vêtement, hein, comme nous avions lu, et se cousurent des feuilles de figuier. Pourquoi? Car ils ne pouvaient, dans le sens où ils n'osaient, ils ne pensaient même pas à dévêtus, affronter le regard de Dieu et des saints anges. Mais à la lumière de ce que nous avions vu la dernière fois dans la deuxième partie, et également dans la première, est-ce que nous, aujourd'hui, nous avons l'effrontement d'affronter le regard de Dieu et des saints anges tout en étant dévêtus? Est-ce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas perdu ce sentiment saint, S-A-I-N, et juste de honte vis-à-vis de notre nudité qui nous ferait éprouver l'impossibilité de pouvoir rencontrer Dieu ainsi dévêtu? Vous discernez? En réfléchissant au fait que Sir White assimilait la nudité des chevilles à une nullité en soi, sans parler des mollets et des genoux. Et donc, est-ce que nous, aujourd'hui, nous avons perdu le vif sentiment de l'absolue impossibilité d'affronter le regard de Dieu et des saints anges tout en étant dévêtus et en ayant notre nullité exposée? Avons-nous perdu cela? Eux, Adam et Ève, ne pouvaient envisager de se retrouver face à Dieu en étant ainsi dévêtus, pas simplement nus dans leur âme, mais nus dans leur corps. Et je continue. Quelle fut alors leur réalisation, s'étant maintenant retrouvés nus, et quelle devrait être la nôtre? Je lis pour cela cette citation du livre Christ Triumphant à la page 26 et au paragraphe 6. Les yeux d'Adam et d'Ève s'ouvrirent en effet. Hein, c'est une allusion directe à Genèse chapitre 2, verset 25. Les yeux d'Adam et Ève s'ouvrirent en effet. Non, pardon, de Genèse chapitre 3, verset 7. Les yeux d'Adam et Ève s'ouvrirent en effet. Mais à quoi? À la vue de leur propre honte et de leur ruine, à la prise de conscience que les vêtements de lumière céleste qui avaient été leur protection ne les enveloppaient plus, leurs yeux s'ouvrirent au fait que la nudité est le fruit du péché. À quoi leurs yeux s'ouvrirent? À quoi est-ce que les yeux d'Adam et Ève s'ouvrirent lorsqu'il est décrit que les yeux de tous deux s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus? Ils eurent une réalisation. Ce n'est pas juste qu'ils ont vu qu'ils étaient nus, c'est bon. Non, parce que nous avons lu avant que l'amour et la paix qu'ils avaient perdus s'étaient vus remplacés par un sentiment dupe de péché, une crainte de l'avenir et le ressentiment de la nudité, d'une nudité de leur âme. À quoi est-ce que leurs yeux s'ouvrirent? Au fait que la nudité est le fruit du péché. Dites-moi, frères et sœurs, la nudité, c'est banal pour nous? De toute évidence, la réalisation que nos parents ont faite est la réalisation qu'il nous faut encore une fois et de nouveau faire afin que nous puissions avoir une conception réelle et juste et appropriée de la justice de Dieu et de la honte de la nudité, à la fois de la nudité du corps et la nudité de l'âme. Parce que si nous n'avons pas la honte de la nudité, à la fois celle du corps et celle de l'âme, alors notre nudité paraîtra et elle sera un indice de notre cœur. Et qu'est-ce que nous lisons dans Genèse chapitre 3, verset 21? Qu'est-ce que Dieu fit pour remédier cela, cette tragique chute de nos premiers parents et leur sentiment amer de péché, de cette crainte de l'avenir et de ses lourdes préoccupations et de ses conséquences et de leur nullité de l'âme? Dans Genèse chapitre 3, verset 21, je lis « Et l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des robes de peau et les en revêtit. » Nous avions vu cela dans la première partie. Afin de pouvoir faire des robes de peau à Adam et Ève, il y avait besoin d'un sacrifice d'animaux et ce sacrifice fut accompli clairement en type du sacrifice de Christ que Jean-Baptiste décrivait comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et donc, après qu'ils eurent traversé cette séquence de terrible honte, de terribles sentiments d'indécence, c'était plus encore, c'était sentiments de nudité totale de l'âme, de leur âme. Leur âme se sentait nue, dévêtue de justice de Dieu. C'est ça leur sentiment qu'ils avaient. Eh bien, Dieu vint à eux et leur fit goûter à cette œuvre expiatoire de Jésus-Christ qu'ils reçurent en promesse et que nous avons maintenant en fait établi et accompli parce que le sacrifice de nous, de Christ, est derrière nous dans le passé, mais pour eux, il était encore futur, il était encore à venir, ce n'était encore qu'une promesse de Dieu, mais par la vertu de la promesse de Dieu, ils furent justifiés par la foi dans le Rédempteur à venir, et Dieu, en symbole de cette activité de justification et de réconciliation, de cette justice imputée et par la suite communiquée, transmise, impartie, qu'est-ce que Dieu fit? Il les revêtit de robes de peau. Il fit à Adam, à sa femme, des robes de peau et les en revêtit. Donc eux, ils s'étaient fait des robes, ils s'étaient cousus des feuilles de figuier, des ceintures. Ça n'était pas suffisant, comme nous le disions à de nombreuses reprises dans l'esprit de prophétie. Ça n'était pas suffisant pour couvrir toute leur nudité. De la même manière que nos propres œuvres ne peuvent pas nous rendre justes aux yeux de Dieu. C'est comme un escabeau pour toucher la constellation d'Orion. Vous n'y arriverez pas. La justice de Dieu est infinie. Nous avons enfreint cette justice par le péché et nous ne pouvons y parvenir que par les mérites du sacrifice de Christ. Et par aussi cette obéissance active, cette obéissance, cette justice transmise par la foi, cette activité de la sanctification. Et donc Dieu a symbolisé tout cela d'une manière concrète aussi, parce que c'est un vrai vêtement, de vraie robe de peau, et est revenu à l'image de Dieu qu'il leur avait destinée dès le début, à savoir celle qui est en harmonie avec son apparence. Donc si Dieu les a ainsi revêtus, c'est-à-dire ne les a pas laissés se promener ainsi vêtus de robes, d'habits, de feuilles de figuier cousues, alors désire-t-il que nous marchions encore aujourd'hui d'habits qui couvrent de manière équivalente notre nudité telle que ces feuilles de figuier le faisaient pour nos premiers parents? N'est-ce pas son désir de couvrir toute notre nudité afin que nos vêtements soient véritablement un symbole et un caractère symbolique? Symbolique de quoi? Symbolique du fait que nous nous revêtons entièrement de la justice de Christ. Et donc, pour avoir la réponse à notre question, qui était, je y reviens, quels sont donc les indices révélés dans notre apparence et quelle est leur signification? La réponse, c'est que nous voyons que la nudité est un indice de notre manque d'harmonie avec l'image, à savoir le caractère de Dieu. Car Dieu se revêt de lumière comme d'un vêtement, comme nous l'avions vu, et la nudité est également une conséquence du péché, ainsi qu'un engrenage de péché. Je m'explique. La nudité est une conséquence du péché parce que c'est ce que nos premiers parents ont réalisé. J'avais lu, leurs yeux s'ouvrirent sur le fait que la nudité était le fruit du péché et le fruit du péché. Donc la nudité est une conséquence, un fruit du péché. Donc si c'est le cas, on ne veut pas prolonger cette nudité. On ne veut pas la continuer dans notre vie. On ne veut pas la pratiquer. Et elle est également un engrenage de péché parce que la nudité provoque la tentation, que nous soyons un homme ou une femme. Plus particulièrement pour les femmes, envers les hommes, mais peu importe. La nudité est une conséquence du péché et également un engrenage du péché, c'est-à-dire que, vous savez, les engrenages, c'est des roues comme ça. Donc la nudité, ça fait tourner la roue de la tentation. Tant que nous sommes nus, nous continuons ces rouages de Satan. Nous faisons tourner son mécanisme. Pourquoi? Parce que nous provoquons la tentation provoque le péché en provoque d'autres, etc., etc. Si nous voulons sortir de cet engrenage, il nous faut revenir à l'image, à laquelle nous avons été créés au tout départ. Et l'autre indice, donc ça c'est l'indice lorsque nous sommes nus, voilà ce que ça représente. Et l'autre, c'est que le vêtement couvrant la nudité, pas n'importe quel vêtement, parce que si je disais juste le vêtement, ça pourrait être très bien équivalent aux vêtements qu'avaient Adam et Ève lorsqu'ils s'étaient cousus des feuilles de figuier et qu'ils s'étaient fait des ceintures, vous savez, short et t-shirt. C'était ça, mes frères et sœurs. C'était ça. Il faut que nous comprenions ici ce que Adam et Ève s'étaient fait, peut-être même plus, hein. C'était short et t-shirt. Plus ou moins. Tout ce que nous avons, toutes ces images que nous avons apparemment censé illustrer la vie de nos premiers parents et l'apparence de nos premiers parents en Éden et après Éden, bref. D'ailleurs, en fait, ces feuilles de figuier représentent justement ce à quoi ça ressemblait probablement. Donc ici, je fais la nuance, le vêtement couvrant la nudité, à savoir toute la nudité, et devrait être un indice de notre réconciliation avec Dieu et de ce que nous désirons nous revêtir intérieurement de toute la justice de Christ et pas simplement des principes et des vérités que nous voulons bien accepter de lui. Vous voyez ? Dans le monde, les hommes veulent s'habiller de la manière qu'ils veulent s'habiller. Ils ne veulent pas toute la justice de Christ. Ils ne veulent pas tous ses principes. Et donc, si nous voulons toute la volonté de Dieu, alors nous voulons accepter toute la justice de Christ et nous voulons que notre vêtement soit un indice de cette décision. Vous comprenez ? Et ainsi, comme je l'avais dit, comme j'avais fait allusion, ainsi, notre vêtement aura un caractère symbolique qui nous servira de rappel constant afin d'éduquer nos cœurs sur la nécessité de nous revêtir sans cesse de toute la justice de Christ. Vous comprenez ? Ce n'est pas juste pour remplir une exigence, c'est pour éduquer nos cœurs. Nous voulons chercher le cœur qui est en harmonie avec Dieu et nous voulons chercher l'apparence qui représente un cœur soumis. Vous voyez ? Nous voulons que notre cœur et notre apparence communiquent le même message. Et pour conclure notre méditation aujourd'hui, j'aimerais que nous lisions brièvement les paroles du psaume 29, versets 1 à 2. Rendez à l'Éternel, vous, fils de Dieu, rendez à l'Éternel la gloire et la force. Rendez à l'Éternel l'honneur dû à son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel dans une sainte magnificence. Et dans la Bible King James, il est écrit « Prosternez-vous devant l'Éternel dans la beauté de la sainteté. » Il y a une beauté dans la sainteté. Il y a une beauté dans la gloire. Il y a une beauté dans toute la justice de Christ. Puissions-nous, frères et sœurs, arriver à mettre en pratique ces principes d'une manière qui soit profondément spirituelle, de telle sorte que notre vêtement puisse nous servir de rappel constant, que notre décision, et nous, que nous avons décidé et déterminé de nous revêtir en chaque instant de toute la justice de Christ, de tout le caractère de Dieu, afin de nous préparer à une place parmi ces anges-là qui sont ainsi vêtus et qui sont ainsi créés moralement, spirituellement, physiquement et qui ont été créés à l'image de Dieu. C'est ma prière que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous bénisse conjointement dans ce sens-là, afin que nous puissions croître, que nous puissions accomplir cette exigence de Dieu, ce désir de Dieu pour notre apparence et que bel et bien dans la même lancée nous cherchions à nous revêtir de cet esprit doux et paisible qui est d'un grand prix aux yeux de Dieu. C'est ma prière au nom de Jésus. Amen.